Frère Daniel Bourgeois, bonjour.
Bonjour.
Alors, un module dans le cadre de Philanthropos, personnes humaines et liturgie. Frère Daniel Bourgeois, vous êtes doctorant en théologie, professeur au séminaire d'Aix-en-Provence, au séminaire de Nice, aussi au séminaire de Toulon, et puis de temps en temps vous donnez des cours à l'école de la foi à Fribourg. Quelques mots déjà sur qui vous êtes. On vous appelle frère, vous avez été dominicain, alors quelques précisions.
Voilà, alors effectivement, vous m'avez surtout désigné par les responsabilités d'enseignement que j'ai, mais en réalité je suis un moine d'une espèce un peu particulière, je suis moine apostolique diocésain. C'est-à-dire, je suis moine, c'est-à-dire consacré à Dieu, comme j'ai toujours voulu l'être, et puis comme je l'étais chez les Dominicains, mais avec quelques frères chez les Dominicains, nous avons perçu l'appel d'une vocation un peu nouvelle et originale, c'est-à-dire être moine dans le diocèse. Vous savez que les moines, depuis surtout à peu près l'an 1050, 1100, la réforme grégorienne, ont été structurés en ordre religieux, en famille à très large spectre et à très large extension. Nous voulons au contraire essayer de retrouver un enracinement de la communauté et de la vie monastique dans le diocèse, et c'est pour ça que notre supérieur, c'est l'évêque d'Aix-en-Provence. Donc je suis moine apostolique, c'est-à-dire je fais de l'apostolat dans le diocèse d'Aix-en-Provence, et pour manifester cette appartenance au diocèse, eh bien je partage avec tous mes frères prêtres du diocèse, et puis spécialement avec mes frères prêtres de l'église où je suis, de la paroisse où je suis, une responsabilité d'apostolat paroissial, catéchèse, préparation au mariage, etc. Tout ce qui fait la vie normale d'un prêtre, avec en plus, effectivement, des responsabilités d'enseignement. Voilà.
C'est plus au titre d'enseignement que vous êtes venu nous trouver et nous parler de la personne humaine et de la liturgie. Alors, c'est quoi la liturgie ou par quel angle, en tout cas dans le cadre de ce module, vous souhaitez nous l'aborder?
Oui, effectivement, je suis assez sensible au fait que Philanthropos ait considéré qu'il était nécessaire d'intégrer dans son année un module de réflexion sur la liturgie et précisément de le mettre en rapport avec la personne humaine. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que la plupart du temps aujourd'hui, quand on parle de liturgie, on pense à des spécialistes qui feuillettent toute la journée des vieux manuscrits, des collections d'oraisons, de lectionnaires et de textes très très compliqués qu'il faut déchiffrer. Et en réalité, la liturgie, c'est un élément fondamental de l'expérience du peuple chrétien. Pour que le peuple soit vraiment le peuple de Dieu, il faut qu'il célèbre son Dieu. Et donc la liturgie, avant d'être un ensemble de textes, de missels, d'ouvrages, de piétés, etc., la liturgie, c'est le mystère d'un peuple qui est en présence de son Dieu et qui a vraiment envie de le célébrer et de vivre pour lui. Ça, c'est l'attitude clé. Ça exige évidemment que la liturgie soit mise, j'allais dire, pratiquement à égalité avec la foi qui est la connaissance de Dieu et avec la charité qui est la manière d'aimer Dieu, mais on connaît et on aime Dieu pour ensuite être heureux de sa présence et de son salut. Et c'est ça la liturgie.
Alors de quelle manière le peuple chrétien vit la liturgie, justement ?
Alors je pense que c'est ça qui est très important, c'est que pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on leur a un petit peu trop expliqué que la liturgie était une affaire, j'allais dire, de piété. Sans s'en rendre compte, on s'est, de ce point de vue-là, un petit peu aligné sur une certaine tendance de la réforme. C'est-à-dire que la liturgie, à ce moment-là, ce serait ces élans du cœur ou cette piété et qui consiste à penser à Dieu avec concentration. Et moi, j'ai de temps en temps des paroissiens qui me disent, j'avoue que ça me fait bondir, ils me disent, ah, écoutez, mon père, nous, on vient pas souvent à vos offices ou à vos messes, mais j'aime bien venir tout seul dans l'église parce que là, je prie mieux. Alors, j'ai envie de leur dire, mais c'est dommage parce que vous êtes chrétien. Et pour bien prier Dieu, il faut être ensemble, il faut être l'Église pour prier ensemble Dieu. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut essayer de rendre au peuple chrétien. Vous savez, on a beaucoup parlé de la réforme liturgique, qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais la plupart du temps, on a cru que la réforme liturgique, c'était simplement des questions d'adaptation de textes, des questions de langue vernaculaire ou pas, etc. Mais en réalité, la liturgie, c'est véritablement éduquer, former le peuple chrétien à l'attitude de se réjouir de la présence de Dieu et de savoir la célébrer. Ça implique effectivement plus une attitude, j'allais dire, existentielle qu'une attitude de connaissance de l'histoire et des détails des rubriques liturgiques.
Vous avez pris une comparaison avec la relation personnelle, vous pouvez en dire quelques mots ?
Oui, parce que effectivement, quand on essaye de réfléchir pour une relation personnelle, quand on veut établir une relation avec quelqu'un, il y a à peu près trois niveaux, dont deux auxquels on pense immédiatement, c'est qu'il faut connaître quelqu'un, il faut savoir un petit peu qui il est, quelle est son histoire, quelle est sa manière d'être, etc. L'observer d'une certaine manière, ça c'est de connaître l'autre. Et puis ensuite, il y a aimer l'autre, c'est-à-dire cette entrée en cette relation dans laquelle est engagée une plus grande intimité. proximité, un poids affectif de la présence de l'autre et de nous pour l'autre, etc. Enfin, la réciprocité de l'amour, de l'amitié, enfin, selon les cas. Et puis, on oublie toujours qu'il y a un autre moment dans la relation personnelle, c'est le fait qu'à un moment donné, on est heureux simplement d'être ensemble, de célébrer ensemble, de nous réjouir ensemble de la présence de l'autre. Dans la plupart des traditions philosophiques, on a toujours décrit ce moment de l'amitié comme le sommet de l'amitié. Eh bien, je dirais que c'est la même chose en liturgie et en vie chrétienne. En vie chrétienne, avec Dieu, il y a un moment où on apprend à le découvrir, à le connaître, c'est la foi. Et puis ensuite, il y a un moment où on apprend petit à petit à l'aimer. Enfin, c'est des moments d'ailleurs qui sont concomitants, ils ne sont pas successifs. On apprend petit à petit à aimer Dieu, et ça, c'est tout l'apprentissage de la charité, des exigences de la vie morale, de la vie communautaire, etc. Et puis après, il y a le moment où on est heureux simplement d'être à Dieu pour la gratuité même de la présence de Dieu. Et là, effectivement, c'est un moment beaucoup plus gratuit. La plupart du temps, on n'y pense pas, on croit que c'est pas nécessaire, mais en réalité, c'est tellement plus beau et tellement plus vrai quand on est en présence de Dieu pour pouvoir le célébrer et le louer de tout notre cœur.
Prêtre, prophète et roi.
Voilà. Et donc, quand on connaît Dieu par la foi, on est prophète, c'est-à-dire on annonce le mystère de Dieu, on est chargé dans un élan missionnaire d'aller dire le bonheur d'avoir trouvé Dieu. Et puis, quand on est roi, c'est la royauté de la charité, c'est-à-dire que être roi, c'est pas écraser les autres, c'est se mettre au service de leur propre bonheur et de la communion avec eux. Et puis, prêtre, c'est-à-dire c'est la dimension cultuelle, c'est le bonheur de se laisser sanctifier, aimer par Dieu et de dire ce bonheur, d'être là. Et c'est pour ça que la liturgie prend toujours cette forme très lyrique, très poétique, du chant, de la musique, de textes qui redisent avec toute la force de l'écriture un certain nombre d'éléments d'expérience personnelle, etc.
Frère Daniel Bourgeois, dans ce module, sans faire de l'histoire de la liturgie, vous expliquez un peu d'où ça vient et comment de différents cultes, en fait, on est arrivé à ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de liturgie.
Oui, effectivement, quand on réfléchit à la liturgie, elle essaye d'approfondir, soit collectivement dans une communauté ecclésiale, dans une église, soit individuellement dans la vie de chacun, sa relation avec Dieu. Et donc, cette relation, elle a besoin d'être dite, elle a besoin d'être formulée. Et comme la liturgie, c'est la rencontre de Dieu plénière, ça veut dire que tout notre être, toutes nos facultés humaines, intelligence, volonté, sensibilité, les talents que nous avons, etc., doivent être mis en œuvre au service de cette rencontre. Et par conséquent, quand on regarde l'histoire de la liturgie chrétienne, elle a toujours voulu tenir compte de tous les éléments, de tout l'humain et de tout le spirituel et de toute la vie théologale qui est dans le cœur de l'homme pour l'intégrer dans l'expérience liturgique. Par exemple, La liturgie intègre une dimension de création. Il faut que, quand on célèbre, les choses soient naturelles, soient vraies, soient belles, soient justes. Et elle intègre aussi cette dimension qui était spécifique à la tradition d'Israël, c'est-à-dire la possibilité de découvrir la liberté que donne Dieu à son peuple dans la grande geste de l'Exode, de le conduire petit à petit à la véritable liberté, à vivre selon la loi et à rencontrer Dieu cœur à cœur au désert. Et puis ensuite, c'est toute l'expérience du temple et des psaumes et de la liturgie quand le peuple est installé, sédentarisé à Jérusalem, etc. Et puis ensuite, c'est le moment décisif, c'est la venue du Christ qui lui se lie à nous par son humanité et nous fait participer à son humanité et nous aide petit à petit à rentrer dans cette plénitude de la relation avec Dieu, la plénitude de la relation du salut, par-delà la blessure du péché qu'il vient guérir en nous par sa mort, etc. Et donc, petit à petit, si vous voulez, l'Église et le peuple de Dieu ont accumulé, stratifié toutes ces expériences et finalement on réussit à les dire. Et aujourd'hui, moi personnellement, quand je célèbre, je me sens solidaire de l'homme et de tous les hommes qui cherchent Dieu à travers le monde sans le connaître comme à tâtons, comme dit saint Paul. Je me sens solidaire du peuple juif qui vit encore de la mémoire de sa Pâque. Je me sens solidaire et enraciné dans la prière et la mort et la résurrection du Christ qui me saisit par la célébration eucharistique. Je me sens solidaire de tous les saints qui ont témoigné à travers leur histoire et l'histoire de l'Église, de leur consécration à Dieu, de leur sainteté. Et je me sens solidaire aussi de ce royaume de Dieu que je crois être en route vers nous et nous vers lui pour nous faire entrer dans la plénitude du royaume de Dieu.
Vous avez parlé de poétique de la liturgie.
Oui, précisément. Comme le dit le vieux proverbe, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. J'insiste beaucoup sur le fait que la liturgie vit et manifeste la plénitude de la rencontre avec Dieu. C'est vrai que quand on reçoit l'Eucharistie, quand on communie, ou quand on est baptisé, ou quand on est confirmé, ou quand on est là, un peuple rassemblé pour célébrer la louange de Dieu, il y a une sorte de forme de communion et de présence de Dieu qui est infiniment plus forte que tout ce qu'on peut imaginer, et même que tout ce qu'on peut ressentir, parce que c'est bien au-delà du ressenti et du sens, n'est-ce pas? Mais en même temps, ça, j'ai dit, il faut le dire. Il faut pouvoir l'exprimer. Et donc, pour pouvoir l'exprimer, moi, je pense que c'est ça le rôle de l'Église et du magistère de l'Église dans la liturgie, c'est de nous donner les mots pour le dire. C'est-à-dire que si nous devions réinventer chaque jour le vocabulaire et les mots pour dire notre union à Dieu, on n'y arriverait jamais. Et il y a eu une illusion comme ça à l'époque, mai 68 et tout ça, où certains chrétiens religieux, etc., se pensaient qu'ils allaient réinventer la vie liturgique tous les jours en effaçant tout et en recommençant. Mais en réalité, c'est une illusion. Si les ancêtres, si les fondateurs, si les patriarches, si les grands créateurs liturgiques ne nous avaient pas livré un merveilleux trésor, un merveilleux patrimoine de textes, de chants, de prières, de textes de méditation, etc., pour nous aider dans la liturgie, on ne saurait pas le faire. On serait, comme dit Jérémie, je balbutie, ah, car je suis un enfant. Et or, la liturgie, ce n'est pas d'être, ah, je suis un enfant, c'est de pouvoir dire à Dieu, tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu qui a sauvé les hommes, tu es le Dieu qui a fait parler les prophètes, tu es le Dieu qui a parlé par la bouche de saint Augustin, des pères de l'Église, etc., et qui a dit ton mystère à travers tout ce que l'Église croit et confesse de toi. Et donc, moi, je me sens l'héritier de tout ça, et je pense qu'il n'y a pas de plus belle endroit. C'est vrai qu'on est à Fribourg, une ville universitaire. C'est vrai qu'on peut dire Dieu à travers un magnifique cours sur Dieu à l'université. C'est très très bien et c'est très important et c'est fondamental. C'est vrai qu'on peut dire Dieu aussi à travers une très belle prédication ou une très belle conférence. C'est très important aussi. C'est vrai aussi qu'on peut dire Dieu à travers un geste, c'est souvent sublime, de charité, de dévouement, de sens du service des autres. Mais je crois que pour nous chrétiens, le moment le plus beau où on peut dire Dieu, c'est de contempler, c'est de voir une assemblée qui se réjouit de la présence de Dieu et qui le célèbre et qui le chante.
Frère Daniel Bourgeois, vous mentionnez l'étape des années 70 où il y a eu quand même des tas de bouleversements dans la liturgie. On s'en remet tout à peine et ça reste quand même un sujet très sensible. Comment vous faites dans un module comme celui-là pour ne pas être partisan d'un point de vue ou d'un autre? Est-ce que c'est possible d'ailleurs?
C'est pas toujours facile parce qu'on sait bien toujours qu'il y a des petites réactions, surtout de sensibilité en réalité. Moi, personnellement, ce que je crois, c'est qu'il faut toujours repartir du fond du problème. C'est-à-dire que tant qu'on reste à une conception formelle de la liturgie, est-ce qu'il faut faire ça ou ne pas faire ça, on est fichu. On peut pas s'en sortir. C'est-à-dire, il faut vraiment toujours revenir à cette idée, à cette perception que la liturgie, c'est d'abord mon être théologal, mon être, ma capacité personnelle d'aimer et d'être aimé par Dieu qui est en cause. Et à partir de là, eh bien effectivement, Dieu, par le ministère de l'Église, met à ma disposition tous les éléments qui sont les plus favorables et les plus susceptibles de m'aider à approfondir cette relation avec Dieu. Ça ne veut pas dire que, par exemple, la liturgie de Paul VI est le top du top par rapport à tout ce qu'on peut imaginer du point de vue liturgique. Mais ça veut dire que je crois, dans les circonstances actuelles, ce que nous propose la liturgie du mystère de Paul VI, de la liturgie des heures, etc., est vraisemblablement le meilleur outil pour découvrir, approfondir et faire vivre et laisser vivre en nous cette relation que Dieu veut avoir avec nous. Donc, il y a une question, j'allais dire, un petit peu de sagesse pratique dans tout ça. Si on commence, et c'est un petit peu la difficulté qu'il y a eu dans les années 70 auxquelles vous faites allusion, si on commence à dire, on a réformé la liturgie, donc on peut faire n'importe quoi, évidemment, à partir de ce moment-là, ça suppose une espèce de naïveté qui croit que l'homme est capable de réinventer et de redire son rapport avec Dieu tous les jours. C'est pas vrai, c'est pas possible. On ne réinvente pas tous les jours. C'est comme si un foyer disait bon ben voilà, on va divorcer pendant 15 jours pour voir comment ça fait de nous retrouver. Ça ne sert à rien, c'est idiot. En réalité, au contraire, si on essaye sans cesse de puiser dans le trésor qui est mis à notre disposition et d'essayer d'en tirer le meilleur parti, ce qui suppose à la fois un certain nombre de normes liturgiques pour orienter, et puis en même temps une véritable créativité des communautés qui vivent tout cela, eh bien à ce moment-là, il me semble qu'on a une anthropologie de la liturgie beaucoup plus saine et beaucoup plus équilibrée.
La liturgie a besoin de vivre, d'évoluer au fil du temps, des époques, des personnes.
Et oui, je ne pense pas que nous célébrions aujourd'hui l'Eucharistie comme saint Paul l'a célébré à Corinthe. Je crois que c'est la même réalité. C'est le corps et le sang de Christ qui sont communiqués à l'Église pour que nous entrions en plénitude dans le sacrifice, la mort et la résurrection du Christ. Mais de fait, les formes, j'allais dire, ne serait-ce que la langue, saint Paul le célébrait en grec, nous célébrons en français. Les formes devaient être sans doute beaucoup plus simples et de temps en temps beaucoup plus désordonnées, parce que saint Paul pousse des hurlantes pour dire, écoutez les amis, ça suffit, les agapes, où vous êtes tous en train de manger comme des cochons et après vous célébrez, c'est une honte, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il y avait besoin de temps en temps de mettre un petit peu les points sur les i, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, en général, dans nos églises, c'est un tout petit peu plus mesuré, un tout petit peu plus maîtrisé. Je m'en réjouis d'ailleurs. Des fois, c'est peut-être un petit peu trop raide, c'est dommage. Mais ça veut donc dire que chaque moment dans l'histoire est un moment de on ne peut pas vivre la plénitude de notre relation avec Dieu, la sainteté, de la même façon que la vivaient les hommes du Moyen-Âge ou que la vivaient les hommes du 6e siècle. Du côté de Dieu, c'est toujours la même chose. C'est toujours Dieu qui aime du cœur de son éternité, de son amour éternel, chacun des hommes dans la situation, mais j'allais dire précisément la grandeur de l'amour de Dieu, c'est d'aimer chacun des hommes comme il est et dans l'état où il est, et de faire qu'à partir de l'état humain dans lequel il se trouve, eh bien, il fasse jaillir de la sainteté et le bonheur d'être à lui.
Frère Daniel Bourgeois, vous dirigez aussi la revue Pierre d'Angle sur christianisme et culture. Vous pourriez nous dire un tout petit mot de quoi il s'agit ?
Oui, avec un professeur ici de l'Université de Fribourg, le père Guy Boudouel, et un autre professeur de théologie qui est en Amérique, nous avons fondé une revue qui s'appelle Pierre d'Angle et qui a pour but d'essayer de faire percevoir tous les enjeux dans la culture contemporaine qui ont quelque chose à voir avec le christianisme, que ce soit explicite ou implicite. C'est vrai que je trouve aujourd'hui, c'est la même question que la liturgie, il y a beaucoup de gens qui vivent un christianisme sans le dire. Et c'est dommage. Parce que il faut savoir que dans des entreprises humanitaires, dans la vie sociale, dans la vie esthétique, artistique, dans la vie littéraire, etc., il y a plein de gens qui ont des intuitions chrétiennes absolument formidables, qui les disent, j'allais dire presque en sourdine dans leur travail, dans leur œuvre, dans leur réalisation. Et en réalité, c'est merveilleux de temps en temps de pouvoir rencontrer ces gens-là et qui vous disent, même s'ils ne sont pas chrétiens explicitement ou pas pratiquants, etc., qui vous disent, écoutez, voilà, dans ce que je fais, il y a quelque chose de très grand, de très beau qui vient presque de plus loin que moi, mais que je suis heureux de pouvoir manifester, de pouvoir donner. Alors, on ne fait qu'une livraison par an, mais on essaie de faire que ça soit une véritable manifestation de ce que l'homme peut dire aujourd'hui du mystère de Dieu, même parfois sans s'en rendre compte.
Frère Daniel Bourgeois, merci beaucoup.
Merci à vous.